Et tout de suite, avec 9 minutes de retard, c'est Qui ou quoi sur Radio Duo. Romans, BD, documentaires, livres pour enfants ou guides de voyage, c'est Qui ou quoi sur Radio Duo. Une demi-heure pour vous parler de livres à lire tout à l'heure avant d'aller se coucher ou demain à n'importe quelle heure de la journée. Bienvenue dans Qui ou quoi, donc dans l'avant-dernière émission de la saison 2018-2019, l'avant-dernière émission de l'année, on pourrait dire. On s'est quitté il y a 2 semaines avec mon compère Vincent et une promesse de son retour, une promesse d'invité aussi, et puis en fait, patatras, tout est tombé à l'eau, je me retrouve tout seul pour cette émission. Ce n'est que partie remise, de toute façon, ils reviendront plus tard et encore plus fort. On avait aussi évoqué qu'on ferait une spéciale manga aujourd'hui. Eh bien, c'est pas parce qu'ils viennent pas que ça m'empêchera de parler de manga ce soir. Donc, du shonen, du seinen, du shoujo, on s'en fiche. En fait, on va parler de manga, bien ou pas bien, ça on verra. Ce ne sera que mon avis et j'essaierai de vous donner envie de les lire. Il y aura de l'ultra-violent avec un manga qui s'appelle Fire Punch, du super-méga-violent avec Ganmu. Et j'aurais pu finir avec du méga-gore, mais on verra s'il reste du temps. En attendant, Qui ou quoi, spécial manga, c'est parti. Le premier manga dont je vais vous parler ce soir s'appelle Fire Punch de Tatsuki Fujimoto. Tatsuki c'est le prénom, Fujimoto c'est le nom. Fire Punch, dont je vais vous expliquer un peu comment j'en suis arrivé à le lire, parce que je l'ai lu un peu par hasard en fait. Je l'ai lu suite à l'écoute d'un podcast de manga que je vous conseille par ailleurs quand vous en avez, quand vous faites des pauses de Radio Duo. Un manga qui n'est écoutable que sur internet, un podcast pardon de manga qui n'est écoutable que sur internet, qui s'appelle La Cinquième de Couve, qui a la prétention de dire que c'est le podcast de débat sur le manga. Bref, La Cinquième de Couve que j'écoutais religieusement et pendant dans lequel ils ont fait leur top 2018. Et tous les gens du podcast ont mentionné un manga qui s'appelle Black Torch. Black Torch, donc pas Fire Punch. Hein. Mais dans mon esprit un peu malade, fatigué et qui mélange quand même pas mal de trucs quand je ne prends pas de notes, ça s'est transformé en Fire Force. Il y avait deux torches, donc du Fire Force. Mais bon, en fait, j'ai lu un petit peu des Fire Force. Mais après en avoir lu 2-3 tomes, je me suis vraiment demandé, ça devait pas être ça le manga de l'année, parce que c'était juste un Fire Force, c'est un shonen assez classique dans le monde des pompiers, pour tout vous dire. Donc il s'est avéré que ça pouvait pas être ça. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je me suis mis en tête que c'était Fire Punch. J'ai donc acheté ces Fire Punch, mais en fait, pour tout vous dire, c'est Black Torch que je voulais lire. En attendant, donc, j'ai acheté ces Fire Punch, je les ai lus et je vous en parle ce soir. Et donc, ça parle de quoi ? Fire Punch, c'est un shonen. Petit rappel pour ceux qui ne suivent pas et qui ne sont pas passionnés ou que ça pourrait intéresser. En fait, le marché du manga est extrêmement sectorisé et il y a des styles qui sont destinés à des cibles. Donc les shonen, ce sont des mangas qui sont vraiment destinés à des adolescents. Les seinen, c'est pour adultes, et puis il y a d'autres types de mangas qui sont pour d'autres personnes. Ça se joue en fait en termes de thématiques abordées, en termes de représentation, c'est-à-dire que dans les shonen, il y aura juste des filles avec des gros seins, alors que dans les seinen, elles ont des gros seins, mais en plus, elles seront toutes nues, etc. etc. Donc Fire Punch, c'est vendu comme un shonen, mais je dois pour être franc avec vous, moi je pense que c'est un seinen. Vous allez voir pourquoi. Donc en fait, c'est l'histoire de Fire Punch se déroule dans un monde apocalyptique où en fait certains humains ont commencé à avoir des pouvoirs, et donc une mutante qui s'appelle la Reine des Glaces, quand elle a découvert son pouvoir, a créé en fait l'apocalypse. Elle a frigorifié tout le monde entier. Donc le monde entier vit sous la neige, tout le monde a froid, tout le monde est mort de froid, tout le monde a faim, difficile de survivre quand il fait froid, parce que difficile de faire pousser des choses dans son jardin dans le froid, etc. etc. Le manga commence dans un petit village où les deux personnages principaux, Annie et sa sœur, vivent un village totalement isolé. Annie et sa sœur sont deux mutants, et ils ont un pouvoir de régénération. C'est-à-dire que quand ils se coupent un membre, celui-ci repousse. Donc eux, pour faire survivre le village dans lequel ils habitent, ils ont décidé de se couper des bras pour nourrir tout le monde. Ils se coupent un bras, ils repoussent, tout le monde mange et tout le monde est content. Jusqu'à l'arrivée des militaires ultra-violents de la ville voisine qui vont tuer tout le monde parce qu'en fait, ils ne supportent pas que ce village en fait, soit des cannibales. Et puis, pour d'autres raisons qu'on découvrira plus tard au cours de la lecture. Et en fait, le chef de cette bande militaire qui débarque en ville a le pouvoir de mettre le feu à n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il peut faire brûler n'importe quoi. Ainsi, il va brûler un peu tout le monde et il va même brûler la sœur d'Annie et Annie, mais sauf que le pouvoir de régénération d'Annie est plus fort que les brûlures, c'est-à-dire qu'il va brûler petit à petit, va brûler complètement, mais juste au moment où il pourrait mourir, en fait, son pouvoir de régénération se met en marche, et il réussit à se régénérer, et en fait, pendant des années et des années, il va juste brûler, et ne pas mourir, il va souffrir, brûler en permanence, ensuite il va réussir à dompter sa douleur, après il va réussir à contrôler un petit peu sa régénération, la faire de plus en plus rapide, etc., etc., pour devenir en fait une espèce de torche humaine en permanence, où en fait il se régénère, une torche humaine qui n'a plus qu'une idée en tête, se venger de l'homme qui a tué sa sœur sous ses yeux. Et donc le manga part sur cette histoire de vengeance. Je n'en dirai pas plus parce que ce serait un peu spoilé. Un petit mot sur l'auteur avant de me lancer dans la critique de ce manga. Donc Tatsuki Fujimoto, qui n'est pas un auteur très connu, qui n'a pour l'instant à son actif que des séries d'histoires courtes, et ce manga en 8 tomes. J'ai pas beaucoup trouvé d'infos, il y a un petit peu d'infos en français, il y a un petit peu d'infos en allemand, encore moins je trouve qu'en allemand qu'en français, et le reste est en japonais, et comme je ne parle pas bien japonais, et bien je n'ai rien réussi à savoir d'autre sur lui. Difficile en fait de parler un peu de Fire Punch parce que ça sort vraiment un peu de nulle part cette histoire, à part qu'elle est un peu violente, ça part dans tous les sens, et puis surtout ça brasse énormément de thématiques et c'est très 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 dense. L'histoire, elle est affreusement tirée par les cheveux, hein, vous avez entendu, j'ai un peu de mal à l'expliquer, et puis elle semble complètement improbable, même si c'est pas pour ça qu'on lit des mangas. En fait, l'histoire, ce n'est qu'un prétexte pour dépeindre une humanité en perdition, prête à tout pour survivre. Et pour ça, et ben dans cette optique-là, je crois que tous les thèmes extrêmes de la Terre sont abordés. Quelques exemples issus de la première partie du manga. Donc vous l'avez entendu, on commence par le cannibalisme, on enchaîne sur la torture, hein, avec Nikki brûle pendant des années, ça dure un petit moment. Après, ça suit sur l'exploitation des pauvres par une élite, les militaires. Et enfin, il y a parce qu'il y en a encore bien longtemps après, mais par exemple, juste après, il y a un gros morceau qui traite du voyeurisme. Un des personnages apparaissant assez rapidement, voulant absolument faire un film de la revanche du personnage, de la vengeance du personnage principal, quitte à ce que des gens meurent pour faire un bon plan de cinéma. Toutes ces thématiques extrêmes sont abordées comme seuls les Japonais savent le faire dans un manga. Le problème, c'est que c'est tellement sombre qu'on a un peu l'impression que c'est de la violence pour de la violence. En fait, la première lecture du manga est tellement frontale qu'on a du mal à comprendre la démarche de l'auteur. J'avais déjà évoqué ça pour un manga dans une émission précédente que vous pouvez retrouver dans tous les podcasts sur le site de Radio Dio, radiodio.org, les podcasts de l'émission Qui ou Quoi. J'avais parlé d'un manga Dragonhead et c'était un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait une première lecture du manga qui était très 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 premier degré, où en fait on se prenait la violence, l'extrême des situations dans la face, et en fait on passait à côté des thématiques, parce que c'était trop. Et là, en fait, c'est exactement le problème. Enfin, le problème. Disons que ça fait le même effet. Et ce manga nécessite absolument une seconde lecture. Il nécessite également d'adhérer un minimum, quand même, à la vision de l'auteur, car c'est très 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 extrême comme point de vue sur la nature humaine. Donc il peut y avoir un rejet, car une incompréhension de tout ça. Parce que, je me répète, mais tout ça est très très frontal. D'autant que les personnages ne sont pas si bien incarnés que ça, on a très peu d'empathie, on les comprend pas forcément, donc on navigue un peu dans le manga d'un concept à l'autre, en fonction du personnage, sur le fait que l'humanité est quand même pas très jolie. Au final, ce qu'on peut dire, c'est que c'est quand même un peu éprouvant à lire. Mais dans plein de sens du terme, s'il y en a qui peuvent aimer, d'autres moins, je vous laisserai juger en le lisant. Au niveau du dessin, parce que c'est important de l'aborder, on est dans une veine classique du manga. C'est-à-dire que le dessin n'est pas du tout différent du tout venant du manga. On est un peu sur cette veine qu'on finit par connaître assez bien. Bon, bien sûr, il y a des spécificités. Hein. C'est un très beau dessin, même s'il n'est pas spécialement révolutionnaire. D'autant que... il y a très très peu de décors, vu qu'en fait tout se passe dans une espèce de plaine enneigée à cause de justement cet apocalypse, un peu comme le désert de Mad Max, mais avec de la neige, quoi. Tout ça pour dire que les dessins sont... c'est quand même un dessin très adulte, qui est très très loin d'un truc comme Dragon Ball. Donc c'est pour ça aussi que j'ai du mal à le classer en shonen. Ce dessin qui est très réussi, et le design en général, ils sont très réussis, ils traduisent extrêmement bien l'ambiance, la souffrance, l'extrême de la situation et l'extrémité du propos. Donc en ce sens, il est très réussi. Je vais quand même clore là-dessus. Je vais essayer de vous résumer un petit peu. Donc ce manga, Fire Punch, j'ai essayé d'en trouver quelques mots qui le résument un petit peu et qui pourraient vous donner envie de le lire, même si je ne sais pas si j'ai été forcément très positif, mais je pense que c'est intéressant à lire parce que c'est assez fort, quoi. Donc je résume, il y a de l'intensité, c'est intensité, situation extrême, c'est plein de situations extrêmes, et c'est dérangeant. Et pour moi, donc tout ça, je vous avoue que même si j'ai du mal à adhérer à la première lecture, la relecture fait que c'est intéressant. Et je vous invite donc à lire les 8 tomes de Fire Punch, c'est assez court. Et ces 8 tomes qui vous permettront de vous faire un avis et de découvrir vraiment un manga comme on en a rarement l'occasion de le lire. Carbon mount, toss around, struggle. C'était The Human League avec le morceau The Sound of the Crowd. On est de retour sur Radio Dio dans Qui ou Quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Il y a de ça quelques mois est sorti au cinéma un film qui s'appelait Alita Battle Angel de Robert Rodriguez. Je ne suis pas là pour parler cinéma particulièrement, mais Alita Battle Angel, c'est l'adaptation de Battle Angel Alita, qui est une BD qui est le nom américain de Gunm, un manga de Yukito Kishiro. Ce manga, il est sorti en France fin des années 80, dans la foulée d'Akira, début des années 90 d'ailleurs. C'est un classique du manga seinen d'action de science-fiction, et j'avais envie de vous en parler ce soir. Gunm de Yukito Kishiro, c'est maintenant dans Qui ou Quoi. Alors, petit rappel historique pour ceux qui ont raté des épisodes de la fin des années 80. La France découvre les mangas, les dessins animés mangas avec le Club Dorothée. Tous les parents de la Terre trouvent que c'est de la merde. Tous les enfants de France surkiffent. Dragon Ball devient légendaire, demandez à n'importe quel rappeur que vous croiserez. Et la France devient petit à petit le second marché mondial du manga après le Japon. Ça c'est aujourd'hui, hein, donc il a quand même fallu un peu longtemps, mais c'est comme ça. En attendant, dans la foulée de tout ça, hein, donc fin années 80, quand tous les dessins animés passaient à la télé sur TF1, Glénat, éditeur de BD grenoblois, décide de capitaliser un peu sur tout ça et traduit et édite Akira de Katsuhiro Otomo. Et dans la foulée de tout ça, suite au succès d'Akira, il publie Gunm, dont je vais vous parler ce soir. Gunm, donc qui, même si c'est moins fort qu'Akira, va ruiner la tête de pas mal de monde, jusqu'à James Cameron, le fameux réalisateur de Terminator 2 et autres Avatar, qui voudra l'adapter en film, ce qui se concrétisera 20 ans plus tard avec le film de Robert Rodriguez, dont il est le producteur, etc. Donc voilà, ça c'était le petit point historique pour ceux qui ne savaient pas pourquoi il y avait eu ce film et surtout d'où il venait. Nous, donc, ce dont on va vous parler ce soir, c'est du manga. Le manga Gunm. Enfin, ça s'écrit Gunm et ça se dit Ganmu. Bon, vous m'excuserez mon accent japonais qui n'est pas très, très, très au point. D'ailleurs, au passage, la France est le seul pays qui a repris le titre japonais sans le changer. Bon, aujourd'hui, Akira est donc devenu un classique de la BD mondiale et moi, je pense que Gunm n'est pas loin. Je vais revenir sur l'histoire de Gunm, la BD. Hein. Donc Gunm, c'est l'histoire de Gally. Gally est en fait un personnage, un robot dont le cerveau est humain, qui a été retrouvé dans une immense décharge. En fait, l'histoire se passe dans une ville qui s'appelle Kuzutetsu, qui est la décharge d'une grande ville qui surplombe, qui flotte en l'air et qui jette tous ses déchets en dessous. Et en fait, dans cette décharge de cette grande ville, un homme retrouve le corps de Gally et décide de le réanimer parce que son cerveau n'est pas mort et elle deviendra une combattante de premier ordre. Je vais m'arrêter là parce qu'après l'histoire est très très longue, elle se déroule sur 9 tomes et ce serait un petit peu long à raconter, même à pitcher c'est déjà un petit peu compliqué. L'auteur Yukito Kishiro, c'est un manga japonais qui est né à la fin des années 60. Pareil, j'ai pas beaucoup d'éléments de biographie, juste que son œuvre principale, ben, c'est Gunm, qui s'articule en fait sur 4 cycles différents. Enfin, ça, c'est vraiment l'essentiel de son œuvre. Il y a Gunm tout court, il y a Ganmu. J'arrive pas à le dire deux fois de la même façon. Il y a Ganmu tout court, Ganmu Last Order, Ganmu Mars Chronicle et Ganmu Other Stories. Le tout est mis en vente et a été créé dans les années 90, à partir des années 90. Alors pourquoi j'estime que Ganmu c'est si important ? En fait, en préparant l'émission, je me suis rendu compte que c'était un petit peu dur de parler, de savoir pourquoi c'était si bien. En vrai, je vais pas vous mentir, moi, j'ai fait partie de cette génération qui a découvert Ganmu dans la foulée d'Akira, et Ganmu m'avait retourné la tête à l'époque. Mais bon, j'avais 20 ans, et puis à l'époque, il n'y avait pas vraiment de concurrence, quoi. Il y a eu la fin d'Akira, et puis derrière, il y a eu Ganmu. Chaque manga qui paraissait en France défrichait en fait un nouveau pan de la production, et chaque titre était proprement mortel, quoi. Donc Akira, Ganmu, Video Girl High dans un autre registre, tous les nouveaux mangas qui paraissaient étaient juste mortels. Aujourd'hui, avec le recul et tout ce qui a pu paraître depuis, en fait, c'est compliqué de trouver ça vraiment mortel, justement. Comme on dit dans le jargon, ben, ça a un peu vieilli. Pas mal de mangas se sont nourris de ses œuvres, et on fait bien mieux depuis. Donc il y a un côté nostalgique à côté duquel j'ai personnellement du mal à passer et que je ne pouvais pas vous passer sous silence. Je vais quand même essayer de passer outre pour vous livrer quand même des éléments et objectifs sur ce manga et essayer de vous faire comprendre pourquoi j'estime que c'est malgré tout un classique du manga sorti de cette histoire de nostalgie. D'une, le monde décrit dans lequel se passe ce manga. Un monde cyberpunk post-apocalyptique qui est à nul autre pareil. On a rarement fait mieux dans le genre, aussi précis, aussi cohérent, aussi crade. On a vraiment l'impression d'y être à n'importe quel moment. Et ça, c'est très très fort. De deux, c'est l'action. En fait, Ganmu est un manga qui propose énormément de scènes d'action. L'action est tout en filigrane de quasiment tous les cycles de Ganmu, le premier en particulier. Et en fait, il y a peu de mangas d'action où je suis aussi vite rentré. Il y a assez peu de mangas qui sont aussi haletants, de bout en bout. Et en fait, ça tient à un parfait dosage entre l'action et la violence. Ganmu est très violent, le monde dans lequel elle évolue est très violent, mais c'est pas de la violence pour la violence, pour le coup, c'est vraiment de la violence est toujours justifiée. Et ça nous mène en fait au point numéro 3. En fait, le découpage de cette BD est particulièrement bien fichu. Le rythme de l'histoire, le rythme des planches, le rythme des dessins, tout dans la composition des pages est parfait. Et ça donne une chose que moi je trouve peu de mangas ont, c'est une lisibilité vraiment, vraiment forte. Je fais beaucoup de romans, je fais souvent ce reproche à plein de mangas personnellement. J'avais fait ce reproche là à un manga pourtant que j'aime énormément qui s'appelle Berserk, mais où je ne comprends strictement rien aux scènes d'action. Ganmu, je n'ai jamais eu ce problème, j'ai toujours compris tout ce qui se passait. Et puis, bien sûr, bon, bah, comme j'expliquais, Ganmu, c'est une grosse, grosse œuvre, en fait. Il y a vraiment énormément de tomes à la toute fin. Il y a des arcs narratifs auxquels on adhère et d'autres où on adhère moins. Mais tout avance. Enfin, tous ces arcs sont un peu indépendants. On n'a pas forcément besoin de tous les lire pour comprendre. Mais toujours dans cette optique, en fait, tout ça est bien articulé et tout ça est lisible et compréhensible. On n'est pas comme dans le manga précédent où en fait on est obligé d'avoir une deuxième lecture pour vraiment comprendre de quoi parle le manga. On comprend tout de suite tout ce qui se passe et en plus aux autres lectures on découvrira d'autres choses. Donc en fait on est vraiment dans un niveau vraiment au-dessus en termes de construction de l'histoire et du manga. Et puis en fait, en préparant l'émission et en arrivant sur ces histoires d'arc narratif, je me suis souvenu en fait pourquoi Ganmu est un classique. Parce qu'il y a un arc narratif qui correspond au tome 3 et 4, à ceux qui sont vendus en France, au tome 3 et 4 de la première série Ganmu. C'est un arc qui traite d'un truc qui s'appelle le Motorball. Et en fait, cet arc, c'est un chef-d'œuvre de bout en bout. Il n'y a pas de concurrence, et je crois qu'on a rarement fait mieux. Enfin, on a peut-être fait équivalent, mais on a rarement fait mieux en manga. Je vais essayer de vous le faire rapidement. L'arc du Motorball, en fait, Gali, la personnage principale, se retrouve à faire du Motorball. Le Motorball, c'est une espèce de course avec une balle qui rebondit de manière aléatoire et dans laquelle les participants sont jetés à 100 km/h sur des patins à roulettes et où tous les coups sont permis. Et en fait, elle va monter son équipe. Enfin, il y a tout un truc qui ressemble à, pour ceux qui ont mon âge, qui sont un peu plus vieux ou qui connaissent le manga, ou ceux qui connaissent le manga Cobra, vraiment c'est la même histoire que l'histoire du Rock Ball dans Cobra, quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, cet arc narratif m'a tellement marqué. Et en fait, quand je pense à Ganmu, je ne pense que au Motorball. Je pense qu'au Motorball, et ce Motorball, j'y pense tout le temps en fait, j'y ai pensé pendant 20 ans, depuis que je l'ai découvert. Et ça en fait un classique, parce qu'un truc qui marque autant, je pense qu'il y en a très très peu. Tout le reste au final est un petit peu anecdotique. Il y a beaucoup de tomes, mais rien n'est aussi fort que le Motorball, je me répète. D'ailleurs, apparemment, le Motorball n'a pas été compris en son temps, et quand c'était paru dans les magazines de prépublication de manga, tout le monde avait dit « Non, c'est de la merde, arrêtez ça !» Et c'est pour ça que le Motorball ne dure que 2 tomes. Mais au final, c'est dommage, et en même temps, c'est comme un commentaire que j'ai lu il n'y a pas longtemps sur Internet, qui veut tout et rien dire, mais que j'ai trouvé vraiment rigolo et qui résume assez bien ce que je pense, c'est que le Motorball, ça aurait pu être mieux, mais si ça avait été mieux, ça aurait été moins bien. Donc en fait, c'est là qu'il y a tout, c'est le Motorball, rien d'autre n'a d'intérêt, et je vous conseille vraiment beaucoup beaucoup de lire le Motorball dans Ganmu. C'était Passion par The Flirts. On est de retour pour finir Qui ou quoi, l'émission bimensuelle qui vous parle de bouquins sur le 895. Avant de lancer la dernière musique, bon non, je vais la lancer tout de suite. Donc voilà, en fait, c'est déjà la fin de l'émission. Une demi-heure, c'est toujours un peu court. Je voulais aussi essayer de vous parler, comme en fait Gunmu, c'est un vieux manga. Il se trouve que il y a plein de rééditions en ce moment de mangas, des trucs qui ressortent, des classiques ou des pseudo-classiques, enfin plutôt des classiques. Donc il y a Gunmu qui est ressorti suite au film. Il y a aussi un truc qui s'appelle Blame, qui se dit Blame, ça c'est Blame si pour certains, mais en fait apparemment ça se dit Blame en japonais, qui est un gros truc de cyberpunk absolument incompréhensible, mais je vous conseille quand même de jeter un œil dessus, ne serait-ce que pour ne rien comprendre au début, et puis la puissance en fait du monde qui est décrit. Et puis dernièrement, ils se sont mis en tête de rééditer Slam Dunk, qui est un manga de sport que je n'ai jamais lu, mais dont j'ai entendu beaucoup de bien justement dans le podcast dont je vous parlais. J'aimerais bien les lire. Bon, c'est un manga de basket, donc avec sûrement des super forts et des mecs qui progressent tout le temps, un vrai shonen de base quoi. En attendant, donc c'est la fin de l'émission. Je vous rappelle que je vous ai parlé de Fire Punch de Tetsuki Fujimoto et de Ganmu de Yukito Kishiro. On se retrouve donc dans deux semaines pour la dernière émission de la saison. Cette fois, ce sera avec Tiffen. Normalement, hein, faut que j'arrête de faire des annonces. J'annonce des gens et puis après, vous ne me retrouvez que moi. Mais bon, normalement, ce sera avec Tiffen pour la dernière émission de la saison, comme l'année dernière. Donc d'ici là, bonne soirée et à dans deux semaines.